Il est 22h sur Europe 1. Tout de suite, les informations avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal et en ce jour de Noël, on espère que vous avez reçu plein d'affection et peut-être aussi quelques cadeaux. En tout cas, Europe 1 était au pied du sapin, à peine déballé, déjà testé. Grosse journée pour les enfants et pour leurs parents. Le message aujourd'hui du pape François, un appel à la fraternité. L'urgence toujours en Indonésie, les humanitaires mettent en garde contre les risques d'une crise sanitaire après le tsunami de samedi. L'appel des parents du petit Antoine à Lyon, leur bébé a besoin de toute urgence d'un nouveau cœur. Le logement, trop cher en France, le DAL dénonce les politiques successives. Ils ont eu la trouille de prendre le sujet à bras-le-corps. Et puis le geste d'un ancien patient qui a fait livrer 60 bouteilles de champagne au personnel de l'hôpital d'Aubagne pour les remercier de lui avoir sauvé la vie. Du côté du ciel, demain, mercredi, sera hivernal mais lumineux avec des températures en baisse. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Et puis on réécoutera ensemble une interview de Raphaël Duchemin que vous retrouvez tous les jours sur Europe 1 entre 13h et 14h dans La France qui bouge. Raphaël qui quotidiennement donne la parole à des femmes ou à des hommes qui œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et pour casser les codes. Des citoyens, des entreprises, des collectivités qui s'engagent et qui inventent le monde de demain. Ce soir, on sera avec Luc Le Sénécal, le PDG de Saint-James, spécialiste des marinières et des pulls marins.
Europe 1.
Et en ce jour de Noël, si vous avez eu l'occasion de sortir un peu de chez vous, vous les avez sûrement croisés, ces enfants surexcités, suivis de près par leurs parents, non moins surexcités, casqués, gantés, avec ou sans roulettes, et surtout fous de joie à l'idée de tester leur nouveau cadeau de Noël. Hélène Terzian, vous avez traqué ces testeurs en herbe cet après-midi dans les rues de la capitale.
Dès ce matin, 10h, j'ai croisé une cycliste en herbe, Léonie, 4 ans, qui roulait à toute vitesse, mais j'ai réussi à l'arrêter quelques secondes pour qu'elle me raconte ce qu'elle a trouvé au pied du sapin.
Mon vélo, il y a une sonnette.
Ah super!
Il est rose, le roux.
Et t'as quoi sur la tête?
Un casque, parce qu'il faut faire attention pour pas tomber. Merci pour Noël.
Léonie qui essaye son nouvel engin sous les yeux forcément attendris de son papa.
Ah bah écoutez, c'est du bonheur. Dès le réveil, elle a sauté du lit et elle a foncé sous le sapin pour découvrir son cadeau. Premier vélo. Et là, ça y est, elle est partie. Elle fait des kilomètres à vélo maintenant. Elle a pris l'option panier, ouais. Enfin, le Père Noël a pris l'option panier.
Alors on teste les vélos, les trottinettes, tout ce qui roule et on enfile aussi ses nouvelles tenues. Ce matin, Tristan, 7 ans, a découvert la panoplie complète de Neymar, son joueur de foot préféré.
Quand j'ai ouvert mes cadeaux, j'ai eu des crampons, un shorts, des chaussettes, un maillot du PSG, le ballon de la Ligue 1. Je vais l'essayer tout de suite. J'ai fait un match, je fais du pass.
Tristan s'est entraîné à dribbler avec sa nouvelle tenue toute la journée.
Reportage signé Hélène Terzian. Malheureusement, les cadeaux, ça ne marche pas à tous les coups, on le sait. Parfois, ça tombe un peu à côté de la plaque, pas la bonne couleur, pas la bonne taille. Et si au moment de l'ouverture du paquet, on essaye de faire bonne figure, ensuite, bien souvent, c'est direction Internet. Selon une enquête Kantar TNS, 22%, c'est-à-dire pratiquement un quart des Français, vont revendre au moins l'un de leurs cadeaux. Les sites spécialisés attendent donc une explosion du nombre d'annonces. L'anthropologue et sociologue de la consommation, Dominique Desjeux, était l'invité d'Europe 1 ce soir. Écoutez son analyse sur la façon que nous avons d'aborder justement nos cadeaux et sur cette tendance de la revente.
On voit en fait qu'il y a trois raisons hein, de faire circuler les objets. La première, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la contrainte de pouvoir d'achat. Elle est toujours là, hein, et depuis toujours, depuis très longtemps. La deuxième, elle est ludique, c'est un peu une plateforme de copains. Et la troisième, elle est écologique, c'est un peu l'économie circulaire. Et les trois se mélangent, et c'est très compliqué de savoir quelle est la part de l'un ou de l'autre, évidemment, dans ce genre de pratique.
L'acte du cadeau est plus important que le cadeau lui-même.
C'est pour ça que ça aussi, c'est un mécanisme qu'on connaît bien. On reçoit des cadeaux. Alors ça peut être à Noël, ça peut être anniversaire, peu importe. Et c'est quelqu'un qui est très proche. Si c'est pas proche, on peut revendre. Si c'est quelqu'un de proche, c'est plus compliqué. Et donc, il y a ce qu'on appelle une technique de refroidissement. C'est du cooling. Il faut faire refroidir le cadeau.
Alors, si cooling, vraiment, vous dites.
Le cooling, du refroidissement. Ouais. Donc, il y a 36 techniques. On va le laisser, par exemple, 6 mois, 1 mois, 6 mois ou 12 mois dans le living. Ou après ça, on va le mettre dans un garage, ou on va le mettre dans un grenier. Et petit à petit, on va le faire disparaître. Mais là, dans certains cas aussi, on peut directement le mettre chez Rakuten, hein, ou de n'importe quel, ou au Bon Coin, ou n'importe quoi. Et là, ça veut dire que quelque part, le lien avec la personne n'est pas très fort ou est un lien problématique.
Voilà l'analyse du sociologue Dominique Desjeux qui était l'invité du Grand Journal de François Claus ce soir sur Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h05 et c'est la suite de votre grand journal de la nuit. 8 migrants en détresse secourus aujourd'hui au large de Calais, parmi eux 2 enfants. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Depuis octobre, ces tentatives de traversée se sont multipliées malgré le danger lié à la densité du trafic, au fort courant et à la faible température de l'eau. Le pape François, ce matin, a appelé justement à la fraternité lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, place Saint-Pierre à Rome. Le chef de l'Église catholique a évoqué les nombreux conflits internationaux.
Que cette fête de Noël permette aux Israéliens et aux Palestiniens de reprendre le dialogue et d'entreprendre un chemin de paix qui mette fin à un conflit qui, depuis plus de 70 ans, déchire la terre choisie par le Seigneur pour montrer son visage d'amour. Que la communauté internationale œuvre résolument pour une solution politique qui mette de côté les divisions et les intérêts partisans, de sorte que le peuple syrien, et surtout ceux qui ont dû quitter leur terre pour chercher refuge ailleurs, puissent retourner vivre en paix dans leur pays.
Le pape François, au micro de la correspondante d'Europe 1 à Rome, Blandine Hugonnet. En Indonésie, les humanitaires mettent en garde contre les risques d'une crise sanitaire. Les rescapés du tsunami de samedi manquent de tout, mais surtout d'eau potable et de médicaments. Les secouristes recherchent toujours d'éventuels survivants. Le dernier bilan fait état de 429 morts. Écoutez l'appel de Thierry Velu. Il est le président du GSCF, groupe de secours français.
Le GSCF est actuellement en relation avec les autorités indonésiennes. Étant donné que les secours sur place sont insuffisants, les besoins évoqués par les autorités sur place sont des unités de traitement de l'eau, du matériel médical. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer un appel aux dons afin de pouvoir éventuellement leur apporter des unités de traitement de l'eau dans les prochains jours. L'accès à l'eau potable est coupé et la première urgence dans ce type de catastrophe est l'accès à l'eau, étant donné que l'eau est le vecteur de maladies. Quand on n'a pas d'eau, non seulement on peut se déshydrater et mourir, mais également ça peut être un porteur de bactéries et de maladies. Tout en sachant que c'est une catastrophe qui risque de s'amplifier étant donné que le volcan est toujours en éruption, qu'il y a des risques également de tsunami, de séisme.
Le président du groupe de secours français, joint pour Europe 1 par Claudia Bertram. Le bras droit de Carlos Ghosn est sorti de prison. Le tribunal de Tokyo a donné son feu vert. L'américain Greg Kelly avait été interpellé en même temps que le PDG de Renault-Nissan. Il a payé une caution de 560 000 euros. Carlos Ghosn, lui, reste en garde à vue au moins jusqu'au 1er janvier. Ankara met la pression sur Paris alors que le gouvernement turc travaille avec Washington sur le retrait américain de Syrie. La Turquie avertit qu'il n'est pas bénéfique pour la France de maintenir sa présence militaire dans le pays. Elle accuse Paris de protéger la milice kurde des unités de protection du peuple en première ligne dans la lutte anti-djihadiste. Au moins 3 morts, dont un diplomate, dans l'attaque contre le ministère libyen des Affaires étrangères aujourd'hui à Tripoli. Attaque qualifiée de terroriste par la mission de l'ONU en Libye. La police allemande enquête sur un sabotage sur une ligne de chemin de fer près de Berlin. Une caténaire a été endommagée et un drapeau du groupe État islamique a été retrouvé à proximité. Pour l'instant, toutefois, la police ne se prononce pas sur un lien éventuel entre les deux. Donald Trump campe sur ses positions à propos du financement d'un mur à la frontière mexicaine. Il n'y a pas d'issue possible, dit-il, au shutdown, la fermeture partielle des administrations. Les démocrates s'opposent farouchement à ce mur promis par le président et l'accusent de plonger les États-Unis dans le chaos.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h09 et l'appel à l'aide des parents du petit Antoine, né le 22 novembre dernier à Lyon. Il souffre d'une insuffisance cardiaque grave. Ses parents ont donc décidé de communiquer sur Facebook. Antoine a besoin d'urgence d'un nouveau cœur et on sait combien les greffes sont difficiles à obtenir. Ça l'est encore plus pour les enfants. Jean-Luc Boujon.
Oui, ce cœur est difficile à trouver parce que les parents sont souvent réticents à faire un don d'organes quand il s'agit d'enfants aussi petits. D'abord parce qu'ils vivent un drame et donc prendre cette décision quand son bébé vient de mourir, c'est extrêmement difficile. Et puis parce qu'à cela s'ajoute la question de la douleur. Du coup, il y a pénurie de cœurs à greffer pour des tout petits. D'autant qu'ici, il faut un cœur quasiment identique à celui d'Antoine, à savoir celui d'un enfant de moins d'un an, pesant entre 2,5 kg et 8 kg et du même groupe sanguin. D'où l'appel de ses parents, Angélique et Kevin, qui ont créé une page Facebook intitulée « Un cœur pour Antoine » afin de relayer leur message. Page qui compte déjà 10 000 abonnés en seulement quelques jours. Et depuis vendredi, ils sont donc inscrits sur une liste de greffe, liste d'attente où le délai est souvent proche de 7 mois. L'objectif, c'est donc une transplantation cardiaque, mais dans un délai beaucoup plus court, pour remplacer ce petit cœur défaillant dont le ventricule gauche se contracte trop peu par rapport à un cœur normal. Les parents d'Antoine remuent donc ciel et terre, y compris aujourd'hui, jour de Noël, eux qui ont déjà perdu leur premier enfant au bout de 23 jours, un petit Gabriel qui souffrait de la même maladie génétique.
Jean-Luc Beaujean, correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes. Comme chaque année en ce jour de Noël, le DAL, l'association qui milite pour le droit au logement pour tous, se mobilisait pour les sans-logis, pour les mal-logés, avec un rassemblement sous les fenêtres du ministère du Logement cet après-midi. Son fondateur et porte-parole, Jean-Baptiste Hérault, était l'invité d'Europe 1 ce soir.
Le logement est devenu très cher en France. Il était le taux d'effort, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est la part que les ménages consacrent au loyer. Bon. Taux d'effort net, une fois déduit les APL. Eh bien, ce pourcentage, il était de 10%, aux alentours de 10% en 1973, et en 2013, il est monté à 27-28%.
L'explication majeure pour vous, Jean-Baptiste Hérault, c'est quoi? C'est l'absence de politique publique autour de cette question?
Il y a plusieurs éléments. Je pense que, de toute manière, les gouvernements successifs ont eu les trouilles de prendre le sujet à bras-le-corps. Parce que, pour plein de raisons, les collectivités locales, elles vont se faire du fric sur les droits de mutation, sur la vente de logements, hein, ce qu'on appelle droits de mutation. Donc, elles vont encourager, puis en passant, on dégage les pauvres. Hein, c'est pas mal de se débarrasser des pauvres, ça fait des charges en moins. Donc, il y a quand même cet aspect-là dans les politiques d'urbanisme local. On a tous les milieux de l'immobilier qui sont quand même assez puissants, qui ramassent, parce que, les prix montent et les prix sont chers. Donc, là, il y a toute une partie de l'économie qui gagne là-dessus. Tout ça, c'est des petits trucs qui sont ajoutés.
Alors, vous dites qu'on n'a jamais pris à bras le corps une mesure qu'on pourrait prendre aujourd'hui pour améliorer la situation du mal logement en France. Une.
D'abord, baisse des loyers tout de suite, quoi. Baisse des loyers dans le secteur privé et hausse des APL, parce que là, c'est scandaleux d'avoir baissé les APL. Et la réquisition des logements vides pour loger les sans-abri.
Jean-Baptiste Hérault, le président du DAL, qui était l'invité d'Europe 1 ce soir avec François Claus. En cette fin d'année, on entame la période des bilans et ce soir, on revient sur l'une des personnalités qui a marqué cette année 2018. On parle de sport, on parle de foot, on parle d'un champion du monde qui vient tout juste de fêter ses 20 ans et qui termine l'année en beauté puisque même s'il a raté le Ballon d'Or, il vient d'être élu par nos confrères de France Football, footballeur français de l'année, Christophe Lamar.
Encore lui, Kylian Mbappé ne boudera sans doute pas ce titre supplémentaire. Un de plus à ranger dans sa collection déjà bien fournie. Si l'on songe à son âge, à tout juste 20 ans, le Français a pratiquement tout gagné. Champion du monde avec l'équipe de France, il est aussi champion de France et vainqueur des Coupes de la Ligue et de France avec le PSG. Sur le plan individuel, le Ballon d'Or lui a échappé, mais il a remporté le lot de consolation, le prix Raymond Coppa, réservé aux jeunes de moins de 21 ans. Alors, ce titre de footballeur français n'est pas vraiment une surprise. Mbappé a inscrit 34 buts cette année et remporté 4 titres majeurs. Seule la Ligue des Champions et le championnat d'Europe manque à son palmarès. Le joueur est sûr de son talent comme de sa force. Ce n'est donc a priori qu'une question de temps ou d'opportunité.
Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1. À propos de sport, pas d'Open d'Australie pour Richard Gasquet le mois prochain. Le numéro 1 français a déclaré forfait. Il est blessé et il souffre d'une sorte de pubalgie. C'est une inflammation des tendons dans la région du pubis. Cinéma, L'homme fidèle sort demain sur vos écrans. C'est un film de Louis Garrel avec Laetitia Casta et Lily Rose Depp. Mathieu Charrier, vous êtes le spécialiste cinéma d'Europe 1. Et donc ce film, vous l'avez vu en avant-première. Ça donne quoi ?
Difficile de classer L'homme fidèle entre la comédie, le thriller, le film sentimental. L'histoire débute façon film français un peu ennuyeux. Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Ils se revoient car Marianne vient de perdre son mari, père de son enfant. Abel décide alors de la reconquérir. Marianne, c'est Laetitia Casta.
On part sur plusieurs pistes avec ce film. Au départ, on peut penser que c'est un triangle amoureux, puis finalement pas du tout. C'est plus qu'un triangle, c'est un rectangle, et puis ça va encore plus loin.
Car au milieu des deux va notamment s'immiscer une jeune femme encore adolescente. C'est Eve, elle aussi amoureuse d'Abel. Eve, jouée par Lily Rose Depp.
C'est l'homme l'objet du film, en fait. Et c'est trouvé ça intéressant, parce que souvent, c'est les femmes l'objet du désir, l'objet tout court.
Début d'un triangle amoureux troublé par Joseph, le fils de Marianne, qui rajoute une histoire de meurtre dans tout ça. Vous ne suivez pas tout à fait, c'est normal. C'est l'objectif de ce scénario, coécrit par Jean-Claude Carrière et Louis Garrel, digne héritier de la Nouvelle Vague.
C'était le désir d'alterner constamment et d'essayer de prendre à contre-pied les attentes du spectateur et de jouer avec lui. C'est un marivaudage de genre.
En tout cas, le spectateur s'amuse devant ce film délicat, tendre, drôle et ramassé puisqu'il ne dure qu'une petite heure et quart.
Mathieu Charrier, spécialiste cinéma d'Europe 1, et L'homme fidèle, c'est donc à l'affiche à partir de demain. Et puis j'avais envie de finir ce journal par la belle histoire de Noël. Un ancien patient de l'hôpital Edmond Gardin d'Aubagne, près de Marseille, a fait livrer aujourd'hui 60 bouteilles de champagne au personnel hospitalier qui s'est occupé de lui. Alors il ne donne pas son nom, mais ce message qui accompagne les bouteilles: je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir donné une seconde vie. Fadi Boufledja a été très touchée, elle est aide-soignante en réanimation.
On était contents, on était euphoriques, on était de savoir qu'une personne doit penser à vous et qu'elle se rappelle qu'on lui a sauvé la vie, entre guillemets. Hein. C'est gratifiant, c'est reconnaissant, c'est pas commun quoi. Une bouteille de champagne pour le service, ça fait très très plaisir. Mais là, 60 bouteilles, on a une bouteille chacun et en plus de ça, on a de quoi se trinquer ensemble plus que d'habitude. Donc c'est touchant, c'est, même si elle a été touchée, on a été encore plus touchés qu'elle. J'aurais bien aimé remercier cette personne, mais on ne sait pas qui est-ce et du coup on ne peut pas le faire, même si on se doute bien un petit peu qui est-ce. Mais on doit respecter cet anonymat, c'était son choix.
Fadi Boufledja, aide-soignante à l'hôpital Edmond Gardin d'Aubagne, jointe pour Europe 1 par Marine Protet. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Elena, demain sera un mercredi hivernal, c'est-à-dire sec et froid.
Du froid qui arrive bien tard hein, en cette année 2018, la plus douce jamais enregistrée en France. Alors demain, ce ne sera pas doux dans le nord et le sud-ouest avec de nombreuses gelées. Moins 5 à moins 3 degrés dans le nord-est, moins 2 à Blois, moins 1 à Lille, à Paris, à Lyon et Rodez. 1 degré à Caen et Montpellier, 4 à Bordeaux, 6 à Toulon. Le tout sous un ciel tantôt bleu. Ça, c'est pour les frontières de l'Est et l'Est du Rhône. Tantôt blanc pâle, ça, c'est pour l'Ouest. Alors un blanc pas désagréable, hein, c'est juste un voile nuageux qui va quand même s'épaissir au fil des heures. Et puis tantôt gris, ça c'est pour le nord-est avec des brouillards localement givrants, soyez prudents si vous devez prendre la route. Des brouillards localement persistants, surtout dans les vallées. Dès lors qu'ils se dissiperont, s'ils se dissipent, les éclaircies seront belles. L'atmosphère restera fraîche au nord et douce au sud avec 3 à 17 degrés de Strasbourg à Lourdes, 6 à Paris, Orléans, Lyon et Grenoble. Jeudi sera un peu plus gris sur l'ouest, vendredi encore plus gris sur une grande partie du pays, sauf sur les Pyrénées-Orientales et dans le sud-est.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1. Pas Europe 1. De top à Wall Street. Moi, je me suis pris le jingle dans les dents, mais ce soir, vous n'aurez pas de bourse en revanche, puisque c'est la trêve des confiseurs pour les places financières. C'est promis, on retrouvera nos amis de boursier.com dès demain. Et toute cette semaine et pendant ces vacances de fin d'année, nous allons retrouver Raphaël Duchemin. Raphaël, qui, vous le savez, est aux commandes de la tranche de la mi-journée sur Europe 1 avec son émission La France qui bouge. Tous les jours de semaine, entre 13h et 14h, elle s'intéresse à ces femmes, à ces hommes qui s'investissent pour faire évoluer notre société. Et chaque jour, elle vous présente l'entreprise qui va bien. Alors, on va réécouter quelques-unes de ces interviews ensemble pendant cette période de fête. Et ce soir, je vous propose de réentendre Luc Le Sénécal. Il est le PDG de Saint-James. Bonjour Luc Le Sénécal.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui, désormais, avez repris les rênes de cette grande et belle maison. 1850, hein, tout de même, c'est là que tout commence. C'est Léon Le Gallais, c'est ça, qui décide de créer des vêtements de marin au départ.
Oui, au départ, c'est plus exactement une filature de laine. Voilà. Et c'est à partir de 1889 que les premiers vêtements, les premiers tricots Saint-James sortent avec la marque Saint-James, qui au fait, Saint-James est le nom d'un village. Nous avons pris l'éponyme du village. Situé dans la Manche, en Normandie, près du Mont-Saint-Michel.
Oui, parce que notre ami Léon, là, au départ, il a une filature, donc il cherche des débouchés.
Exactement. Et au fait, on est né d'un vêtement protecteur pour les marins, le fameux pull marin. Et d'année en année, puisque l'année prochaine, on fêtera nos 130 ans, nous avons développé toute une gamme autour de deux savoir-faire. Un en tricotage, donc tricotage et confection de pulls et des fameuses vestes Saint-James. Et la même chose pour le coton avec les marinières.
Dites-moi, les marinières, justement, pourquoi est-ce que tout le monde a une marinière et pourquoi est-ce qu'on a créé une marinière avec ces bandes bleues et blanches?
Alors, il y a plusieurs origines. Bon, il y en a une qui me plaît plus particulièrement.
Alors,
c'est
allez-y.
Les 21 rayures de la marinière qui remonteraient à Napoléon pour fêter les 21 victoires de Napoléon. Voilà, ça, c'est une
diversion
qui me plaît bien, notamment face aux Anglais.
Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ces marinières de particulier, dans ces tricots Saint-James ? Vous parliez de la manière dont on travaille les produits, la laine notamment. Elle vient d'où, votre laine ?
Alors, je pense que ce qui fait la réussite des tricots Saint-James, c'est avant tout un savoir-faire, puisque c'est un savoir-faire ancestral, reconnu par notre label Entreprise du patrimoine vivant, et c'est un savoir-faire humain. Chaque poste de travail chez nous, c'est 18 mois de formation avant d'être opérationnel.
Ça veut dire qu'on continue à fabriquer les tricots Saint-James comme on les fabriquait au départ ?
On les fait comme on les tricotait à l'époque. Seuls les métiers à tricoter ont un petit peu évolué, mais pas le principe de même. C'est plus un apport d'informatique, de technologie. Mais ce qui est important, c'est à la fois la qualité du tricotage. On tricote en maille très serrée, qui rend souvent nos pulls quasi imperméables. Et c'est surtout après le montage, c'est-à-dire la confection. Par exemple, ce qui fait la différence sur un pull Saint-James, c'est le remaillage. Qu'est-ce que c'est le remaillage ? C'est la fixation du col du pull au corps du pull, maille par maille. Donc c'est une opération très longue et qui demande un savoir-faire spécial. Il faut savoir que pour faire un pull, il faut 24 km de fil de laine et il est passé entre 18 mains à l'intérieur des ateliers Saint-James. Saint-James, c'est 300 emplois, 300 salariés sur un seul site de production à Saint-James.
Marie, la coach.
Ce que je me demande souvent avec des marques comme la vôtre, c'est comment on fait pour placer le curseur de la manière la plus intelligente entre l'authenticité de la marque et les modèles iconiques de votre marque, et en même temps la tendance et l'évolution de la mode, qui est très rapide.
Oui, alors au fait, nous ne cherchons pas à être à la mode, c'est la mode qui vient vers nous, pour plusieurs raisons. Avant tout, le consommateur a changé. Que veut le consommateur ? Il veut que toutes les marques lui racontent une belle histoire. Mais ce qui a changé depuis une dizaine d'années, c'est qu'il faut que l'histoire soit vérifiable. D'où vient le produit ? Par qui ça a été fait ? Est-ce que l'entreprise est éthique ? Et nous avons ouvert volontairement nos portes d'entreprise, de l'entreprise qu'on peut visiter tous les jours, depuis 3-4 ans, pour justement vérifier que tout est bien confectionné, fabriqué à Saint-James. Marie. Et pour répondre à votre question, pardon, sur la nouveauté, une collection Saint-James, c'est plus de... On a deux collections par an, printemps, été, automne, hiver, et à chaque fois, c'est 130 nouveaux produits, j'ai pas dit coloris, nouveaux produits, donc c'est des nouveaux points de maille, c'est également de nouvelles matières, on tricote beaucoup maintenant de coton, de lin, en mélange des matières naturelles.
Avec beaucoup de nouveautés aussi, notamment depuis le 1er octobre, parce que ça y est, les marinières s'envolent, hein, elles ne restent pas en mer uniquement, ni sur la terre, elles prennent les vols Air France. C'était important d'être associé à Air France pour vous ?
Oui, c'est une belle rencontre lors d'un speed meeting entre l'ancien président d'Air France et moi-même. Au fait, c'est la reconnaissance d'un produit emblématique, fabriqué avec un savoir-faire français. Et pour nous, c'est important, notamment en termes d'image, puisque nous réalisons 40% de notre activité à l'export. Et c'est une merveilleuse exposition d'être présent à bord des vols Air France moyen et long courrier.
C'est aussi une marque, et vous l'avez dit, qui fait partie du patrimoine vivant français. Vous êtes président d'ailleurs de l'Association nationale des entreprises du patrimoine vivant. Vous avez le sentiment que ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour les Français aujourd'hui ?
C'est très important. Ça va au-delà du Made in France. Parce que nous avons 1400 entreprises du patrimoine vivant en France, réparties sur tout le territoire national. Et ça le concerne tous les différents métiers. Et plus de 70%, je crois que même 75% de ces entreprises exportent. Parce que exporter, c'est exporter une différence. Et la différence d'un produit labellisé par une entreprise du patrimoine vivant, c'est aussi une qualité supérieure. Parce que le Made in France, c'est bien, mais c'est plus suffisant. Il faut que la différence qualitative se ressente. Et à travers ce label EPV, c'est vraiment la reconnaissance d'un savoir-faire ancestral.
C'est l'entreprise qui va bien. Merci, c'est Saint-James qui était avec nous. Merci Luc Sénécal.
Et c'était l'invité de Raphaël Duchemin que vous pouvez retrouver tous les jours, bien sûr, sur Europe 1 entre 13h et 14h dans La France qui bouge. Et dans un instant, sur Europe 1, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite.
Et voici ce que vous découvrirez donc demain matin dans vos quotidiens. La charge du pape François contre le consumérisme est à la une du Figaro. Dans son traditionnel message de Noël, le pape a appelé les fidèles catholiques à réfléchir au sens spirituel de leur vie. Le journal La Croix revient lui aussi sur les propos du pape qui a lancé un appel à la fraternité aujourd'hui à l'occasion de sa bénédiction Urbi et Orbi. Hier, lors de sa messe de Noël, il avait dénoncé la voracité des hommes. Gilets jaunes, un choc majeur pour l'économie, titre le journal Les Échos, qui nous dit que l'impact de ce mouvement des Gilets jaunes sera aussi lourd que celui des grèves de 1995, chiffre à l'appui. Des grains de riz, de café et de maïs à la une de Libération demain. Trois denrées parmi les plus consommées au monde, dont la culture est fortement frappée par les hausses de température. Contraint à une métamorphose à grande vitesse. Le secteur, nous dit Libé, doit en plus faire face à l'accroissement de la population. L'agriculture telle qu'elle est pratiquée pourra-t-elle nourrir 10 milliards de personnes en 2050 ? Certainement pas, nous dit Margot Lacroux. Le changement climatique pourrait renverser le plateau repas de l'humanité. Les sécheresses et inondations sont de plus en plus dévastatrices. Nos exploitations agricoles sont en danger, interpelle la retentissante pétition en ligne « L'affaire du siècle » qui a déjà été signée par 1,7 million de personnes. Les rendements, la sécurité alimentaire et la vie des petits paysans vont être bouleversés. Et les pays du Sud sont en première ligne. Chacun à leur manière, le maïs, le café et le riz sont emblématiques de ces enjeux. Très étendus sur la planète, ces cultures vont devoir répondre à une demande croissante tout en basculant vers des systèmes d'agriculture plus résilients. Les agriculteurs vont devoir composer avec sécheresses, inondations et autres événements extrêmes plus fréquents et aléatoires. Mais ils ignorent encore si le scénario tiendra du film catastrophe ou pas. À la une de Ouest-France, demain, tout autre sujet, à l'heure des achats sur Internet, du commerce en ligne, votre journal nous apprend que le porte-à-porte résiste. 250 véhicules boutiques, magasins bleus, sillonnent par exemple campagne et bourg pour vendre des vêtements et du linge de maison. Ça paraît anecdotique, mais ça marche. Et en plus d'être très pratique pour ceux qui sont isolés de tout. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des Unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin.